la question du jour était, une nouvelle intifada en Judée-Samarie est-elle à craindre? Et pourquoi on vous posait cette question? Parce qu'en marge des discussions menées avec les États-Unis autour de l'accord cadre de cessez-le-feu, l'Iran tente de rétablir ses liens avec les organisations terroristes palestiniennes basées en Judée-Samarie. Et donc, on voulait vous concerter pour voir si vous pensiez, vous, qu'une nouvelle intifada en Judée-Samarie était à craindre. Eh bien, sur Insta, vous êtes 76% à penser que oui, 82% sur Facebook et sur X, c'est l'égalité parfaite, 50-50. On va voir ce qu'en pense notre invité, mon cher Joe, Jonathan Serrero, puisque nous recevons ce matin, comme souvent quand il s'agit de ce type de questions du jour sur le sécuritaire, Raphaël Jérusalmi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal, qui répond à la question du jour, en tout cas, qui nous apporte ses lumières.
Raphaël Jérusalmi, bonjour et Boker Tov.
Bonjour.
Pensez-vous, Raphaël, qu'un scénario de reprise d'une intifada en Judée-Samarie est un scénario possible dans un avenir proche?
Oui, en tous les cas, les factions terroristes s'y emploient quotidiennement. Il y a la possibilité ou non de prochaines élections qui devraient être tenues par l'autorité palestinienne, qui sont reportées à chaque fois, mais qui sont, s'ils ont lieu, aussi un problème sécuritaire, car il y a ici des factions rivales qui peuvent chauffer la rue palestinienne. Comme nous le disons, il y a toutes les raisons possibles et imaginables pour tenter de chauffer cette rue-là, qui pour l'instant se tient plutôt tranquille, même s'il y a des tentatives incessantes d'attentats de la part des terroristes.
Quelle forme prendrait ce soulèvement s'il venait à avoir lieu? Quels sont les facteurs qui permettraient le déclenchement d'une nouvelle intifada dans les territoires? On le sait, les territoires sont traversés aussi par des violences commises par certains éléments radicaux au sein des localités juives de Judée-Samarie. Quelle forme prendrait ce soulèvement, Raphaël?
Alors, il y a deux éléments qui menacent, en plus du reste, la stabilité de la Judée-Samarie. Le premier, c'est comme vous l'avez dit, tout en précisant immédiatement qu'il s'agit d'une frange fanatique, marginale, minoritaire, mais quand même elle est là, et elle crée des dégâts énormes sur le plan diplomatique, sur le plan de l'image d'Israël, avec une violence et une lâcheté d'ailleurs qui n'est pas à l'honneur de ces gens-là, puisque cette soi-disant jeunesse des collines s'attaque en général à des civils palestiniens sans défense et n'est malheureusement pas poursuivi comme il le faut par la police et l'armée, et cela évidemment jette de l'huile sur le feu même auprès de populations pauvres et agricoles qui ne sont pas véritablement des menaces. Le second grand problème, c'est le problème économique. Il y a un étranglement de l'économie palestinienne dû au fait que Abu Mazen s'obstine à récompenser et financer les familles de terroristes, et donc un blocage des retours d'impôts et de TVA pour l'autorité palestinienne qui la précipite dans une crise économique. Il y a aussi la possibilité que ces émeutes ne soient pas des émeutes contre Israël, mais la possibilité d'une guerre civile en fin de compte entre les partisans du Hamas et de l'OLP, avec une impopularité croissante d'Abu Mazen qui est carrément détestée par la majorité de la jeunesse palestinienne, par exemple.
Et l'Iran est certes ressorti affaibli militairement de sa guerre contre Israël et les États-Unis, mais l'Iran a toujours un pouvoir de nuisance dans les territoires palestiniens. Comment la République islamique parvient encore à déstabiliser cette région?
Alors, la République islamique, comme d'habitude, tente d'envoyer de l'armement à travers l'Irak et la Jordanie, par la frontière jordanienne. On sait qu'il y a, sur le plan d'ailleurs pas uniquement terroriste, mais même gangstériste ou mafieux, beaucoup de trafic d'armes illégales. Il y a moins de soutien financier aujourd'hui. Malheureusement, l'influence iranienne qui s'est affaiblie a été compensée, remplacée par l'influence turque et l'influence qatari. Les Turcs poussent à la roue, ils ont créé de fausses ONG, même à Jérusalem-Est, à travers lesquelles ils font parvenir de l'argent au Hamas et au djihad islamique. Il va de même pour le Qatar, qui a toujours joué ce double jeu de soi-disant médiateur et de pacificateur, mais qui est en fait le financeur principal du terrorisme. Donc les terroristes aujourd'hui, à Gaza comme en Judée-Samarie, ne sont pas à court d'argent et ne sont pas à court de soutien à cause justement donc de l'Iran, du Qatar et de la Turquie.
Est-ce que les décisions prises par la communauté internationale et notamment par l'Union européenne contre Israël en Judée-Samarie peuvent motiver la rue palestinienne à s'en prendre de nouveau aux Israéliens dans cette région?
Je pense que les Palestiniens n'ont pas besoin d'encouragement de la communauté internationale pour s'en prendre aux Israéliens. Ceci étant, il y a des mesures qui sont contre-productives de la part de la communauté internationale dans la mesure où elles sont foncièrement anti-israélienne. Alors c'est vrai que on peut avoir des personnages comme messieurs Ben-Gvir ou Smotrich ou donc cette fameuse jeunesse des collines qui est violente, qui soit critiquée par la communauté internationale, mais on aimerait voir le même niveau de critique et qui est beaucoup plus justifié à l'égard de justement Abou Mazen de l'autorité palestinienne, qui est un dictateur corrompu et qui nuit toute chance de paix, et sans oublier bien sûr les chefs des factions terroristes diverses qui ne sont pas suffisamment sanctionnés par la communauté internationale.
J'ai deux dernières questions, Raphaël. On a assisté il y a de cela quelques semaines tout juste à un attentat perpétré dans un village du Sharon, situé à proximité de la ligne verte qui sépare Israël des territoires palestiniens. Les opérations de Tsahal se multiplient chaque soir à Ramallah ou à Tul Karem. On n'en parle pas beaucoup, mais pourtant, chaque soir, les soldats israéliens veillent au grain dans les territoires palestiniens. Est-ce que... comment s'y prendre, justement, Raphaël, pour tenter de mettre fin à ce terrorisme palestinien dans les territoires, et s'il y a une fin possible, Raphaël?
C'est un travail de fourmi, un travail de Sisyphe. Il n'y a rien à faire, il faut être tout le temps vigilant, tout le temps en action, poursuivre, détruire, arrêter, éliminer ces terroristes. Malheureusement, la mauvaise herbe repousse vite. Il faut à chaque fois retondre la pelouse. Et donc, c'est un travail de très très longue haleine qui est sur le terrain, dans les rues, dans des endroits extrêmement dangereux. Et ça fait un travail extraordinaire avec le Shin Bet. Malheureusement, tant qu'il n'y a pas de solution politique qui puisse un peu changer la donne, on va avoir affaire à cette menace. Depuis des années on le fait, et on a encore pour des années, il faut être prêt à le faire. C'est la raison pour laquelle il y a un besoin urgent d'avoir beaucoup plus de soldats et de soldates dans le Sahel, et donc d'enrôler qui peut servir, qu'il soit religieux, pas religieux, orthodoxe, laïque, tout le monde doit servir dans le Sahel pour défendre, pour protéger notre pays, car la situation est extrêmement dangereuse et inquiétante, et il y a des centaines et des centaines de Palestiniens qui ont adopté le terrorisme et qui tentent de commettre des attentats.
Raphaël, toute dernière question sur l'actualité libanaise. Il y a eu un accord cadre qui a été conclu ce week-end. Personne n'y croit du côté israélien, libanais ou encore moins du côté du Hezbollah. Il n'y a que les Américains qui semblent y croire. Vous y croyez, vous, Raphaël?
Oui, j'y crois parce qu'il faut y croire. C'est ici quand même un changement, ne serait-ce que psychologique, dans l'attitude du gouvernement libanais à l'égard d'Israël, un changement dans la dialectique, dans les paroles qui sont prononcées, qui n'ont jamais été prononcées auparavant, de possibles arrangements, de négociations, de frontières établies. Alors on est très très loin évidemment d'un véritable acquis géomilitaire et géopolitique, mais on est sur la bonne voie. Il faut absolument créer la confiance avec les Libanais. Je peux vous garantir qu'une grande partie, sinon la majorité du peuple libanais, veut une normalisation avec Israël, veut voir le Hezbollah être désarmé et veut voir la férule iranienne dégager, la poigne iranienne sur la politique libanaise. Et donc dans l'ensemble, il y a une nécessité de donner justement là sa chance à la voie diplomatique, chance que nous n'avons pas pour l'instant face aux Palestiniens, peut-être pas non plus encore pour l'instant face aux Syriens, mais que nous semblons avoir face aux Libanais. Alors oui, je suis optimiste parce que dans ce cas-là, il faut donner sa chance à cette occasion.
Raphaël Jérusalem, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.